A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliquen et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Photographe, réalisateur, vidéaste depuis plus de 15 ans et créateur de contenu sur les réseaux sociaux, J.C. Pierry voyage partout dans le monde à la recherche d'émotions. Comment cet art est-il entré dans sa vie? Comment a-t-il réussi à transformer sa passion en métier? Qu'est-ce que l'on ne voit pas derrière la caméra? Quelle est sa vision du travail? Avec son franc-parler sans détour, JC nous éclaire en nous donnant quelques conseils. Belle écoute! Hello JC!
Salut!
Comment vas-tu?
Eh bien très bien, merci et toi?
Très très bien, merci beaucoup. T'es en France actuellement?
Je suis à Marseille, ouais, je suis rentré.
À Marseille. Ok, d'où tu viens? Eh bien écoute, je suis hyper heureuse d'embarquer avec toi aujourd'hui pour une interview qui, j'espère en tout cas, fera rêver nos auditeurs et ta communauté. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle J.C. Pierry, j'ai 33 ans, je suis originaire de Marseille. Je suis photographe réalisateur et je suis originaire du monde du sport extrême à la base.
Ok, on va en parler, c'est un petit peu différent de ce que tu fais actuellement. Moi, je t'ai découvert sur Instagram en parcourant ta galerie sublime de photos, particulièrement des animaux qui sont extrêmement... on est au plus près de l'animal et de l'émotion de l'animal et c'est ce que j'aime vraiment avec ta photographie.
Merci.
Et j'ai envie de citer Chase Jarvis, j'espère que je n'écorche pas le nom, qui dit que le meilleur appareil photo est celui que l'on a avec soi. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation?
Ben, moi, je pense que oui, tout à fait, parce qu'on me pose souvent la question quel appareil photo choisir et beaucoup de gens pensent que c'est en ayant la meilleure caméra du monde qu'on fait les plus belles images. Alors forcément, ça peut aider à certains niveaux si on a des contraintes techniques. Mais même avec une petite caméra, même avec un téléphone, on peut faire des choses incroyables aujourd'hui. Et savoir saisir l'instant, être là au bon moment, et je pense que c'est le plus important. Donc pour moi, voilà, avoir peu importe ta caméra, ça te permet de pouvoir réaliser de belles images, ça c'est sûr.
Exactement. Aujourd'hui, tu es photographe, vidéaste, réalisateur, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. C'était un rêve d'enfant?
Alors non, pas forcément. Très honnêtement, moi c'est vrai que peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais cette passion de l'image, s'est dévoilée grâce au monde du sport extrême petit à petit. Non, au départ, moi je voulais faire, j'étais pas mauvais en dessin et je voulais faire designer automobile. C'est vraiment un premier rêve que je voulais avoir. Après, bon, quand j'ai compris que ça allait être quand même assez compliqué et que je risquais de dessiner plutôt des rétroviseurs avant de dessiner des voitures. Je sais pas pourquoi, ça m'a coupé un peu dans mon élan. Et puis après, petit à petit, je fais pas mal de choses. Je fais une école de commerce, je me suis lancé dans l'événementiel. Et puis après, voilà, aujourd'hui, photographe et réalisateur.
Ok, donc tu es arrivé, tu me disais, dans le monde du sport extrême. Comment ça s'est goupillé, ça, pour toi?
Alors, j'ai commencé le BMX. Alors, moi, j'étais beaucoup dans le football, comme beaucoup de petits garçons au départ. Malheureusement, par rapport à ce qui s'était passé, j'ai eu la chance de jouer pour l'Olympique de Marseille jusqu'à l'âge de 14 ans. Et pas mal de choses sont passées qui ont fait que ça m'a clairement dégoûté de ce sport-là, malheureusement. Aujourd'hui, j'ai repris un peu contact avec ce sport, mais voilà, c'était compliqué. Donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et je sais pas, j'ai vu des vidéos sur internet de gars qui faisaient du VTT, qui se jetaient dans les collines avec les vélos. Je sais pas pourquoi, ça me plaisait. C'était vraiment l'opposé de ce que je faisais. Je me suis lancé dans le VTT et rapidement après, j'ai changé et je suis allé vers le BMX, donc les petits vélos dans les skateparks pour faire des figures. Donc, parce que je commençais à vouloir faire des figures avec mon VTT, je me suis dit non, non, ça c'est pas bon. Des potes m'ont dit non, il faut que tu achètes un BMX. Et je me suis lancé dans ce monde du sport extrême. Et petit à petit, en fait, du sport extrême, j'ai aussi découvert le monde de l'événementiel grâce à mon école de commerce. J'étais à Kedge à Marseille. Et de là, donc, je crée des événements, je commence à aller sur des événements moi aussi pour des compétitions, pas mal de choses. Je rencontre des gens. Et petit à petit, en fait, il y a cette passion de l'image qui rentre parce que on se dit, on aimerait bien mémoriser un peu tout ce qu'on fait. Donc des petites vidéos. À la base, moi, j'étais plutôt sur la vidéo que sur la photo. Et en fait, en faisant ces premières vidéos, petit à petit, je filme mes amis, ça me plaît de plus en plus, je regarde ce qui se fait sur Internet et j'évolue jusqu'à en faire mon métier.
Tu te souviens de tes tout premiers souvenirs photographiques, de tes tout premiers clichés?
Ah ouais, bah surtout des vidéos, honnêtement, oui, mais quand tu regardes ça, pour moi, c'est les meilleures vidéos du monde parce que c'est là où tu as tous les souvenirs, tu te vois comment tu faisais, enfin. Je n'avais aucune notion, mais alors rien du tout. C'est vrai que sur les réseaux, il y a plus de 15 ans, tu n'avais pas les tutoriels qu'on a
C'est
maintenant
vrai.
gratuitement sur YouTube. On ne pouvait pas apprendre facilement, comme le vélo en fait, hein, même les riders. Nous, maintenant, il y a plein de vidéos qui t'expliquent comment faire certaines figures. Il n'y avait rien du tout. Et moi, je me rappelle que je ne savais même pas qu'il fallait un logiciel de montage. Donc, j'avais ma caméra, j'avais un vieux caméscope Canon qu'on avait offert à mon père à ses 50 ans. Et je ne savais pas comment mettre de la musique dessus, mes images. Donc, en fait, j'avais un dictaphone à côté de moi. Et où je mettais play en même temps sur le dictaphone, où j'avais enregistré une musique et ma caméra pour que ça enregistre en même temps sur la cassette. Et voilà, c'est assez dingue. Donc, on revient sur la question au départ, quand tout le monde te dit, oui, il faut une belle caméra pour faire des belles images. Ben, pas forcément, tu vois, il faut juste se débrouiller. Moi, j'avais fabriqué un stabilisateur avec un guidon de trottinette. Mais voilà, au moins, c'est bien de savoir partir de là, ça permet de bien évoluer
Exactement.
ensuite.
Ouais, l'art de la débrouille quand on est passionné.
C'est ça.
Beaucoup aujourd'hui rêvent de ce métier. J'imagine d'ailleurs que via tes réseaux, tu reçois beaucoup, beaucoup de questions. Comment t'as fait, JC? Par quoi tu es passé? Est-ce que tu as des conseils à me donner? Et c'est pas si évident de transformer sa passion en un véritable métier. Toi, comment t'y es pris? Est-ce que tu te rappelles des premières étapes?
Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis passé par l'événementiel. Et en fait, l'événementiel m'a permis de pouvoir accéder à ces riders à la base. Donc, moi, vraiment, j'ai commencé par faire de l'image en sport extrême. Mais j'avais besoin d'accéder à ces riders connus pour pouvoir les filmer et me faire connaître dans ce milieu. L'avantage, c'est que c'est une niche, c'est pas comme le football où c'est très compliqué d'accéder directement à Zidane ou quoi. Là, j'ai pu facilement accéder aux meilleurs riders du monde. Et tout ça, en fait, en faisant de l'événementiel, en invitant ces gens-là. Et ensuite, ils m'ont fait confiance. Il y a une personne qui s'appelle Ben Snowden qui m'a invité aux États-Unis chez lui. Donc, je passais tous les étés chez lui pendant plusieurs années. Il vivait dans une maison où il y avait les meilleurs riders du monde. Et donc, tous les jours, je filmais ces gens-là. Il y avait plein d'autres qui venaient. Et grâce à ça, je faisais plein, plein, plein de vidéos pour les riders. Je me suis fait connaître dans cette niche. Et c'est de là que c'est parti, en fait, où j'ai pu me faire connaître dans ce milieu-là. Et après, j'ai décidé de diversifier un peu mon travail en faisant de l'événementiel, du mariage, pas mal de choses.
Est-ce qu'il y avait des personnes autour de toi qui disaient, mais tu vas jamais y arriver, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas te mettre dans un truc un peu plus classique? Ou non, c'était assez fluide pour ton entourage?
Donc, alors, mes parents m'ont jamais dit tu ne vas pas y arriver, mais ils n'étaient pas forcément ultra confiants. En même temps, je leur ai jamais vraiment dit je veux vivre de ça, de la vidéo. Je savais même pas moi si je pouvais le faire. Très honnêtement, à ce moment-là, c'était juste une passion que je développais. En parallèle, j'avais mon école de commerce, donc c'est vrai que pour les parents, c'est plus stable l'école, on va dire, tu vois. Donc ils disaient bon ben ok, il va avoir un bon background avec. Donc j'avais moi une licence en finance. Après j'ai eu un master en sport event. Et ils disaient bon ben voilà, au moins il a ça, il va pouvoir trouver un métier tranquille, il développe sa passion, c'est bien, il s'amusera le week-end à aller faire ses photos et ses vidéos. Et en fait, en parallèle de l'école, je commençais vraiment à gagner ma vie avec ces projets-là. Petit à petit, en sortant de l'école, j'ai vu que en fait, je pouvais réellement encore plus gagner ma vie si j'étais à plein temps. Moi, l'école me prenait toute la semaine, voire un peu le week-end pour bosser. J'avais énormément de choses à faire. Donc après, quand j'ai compris ça, je me suis dit ben feu, vas-y quoi. Donc j'ai pas eu de gens qui m'ont vraiment bloqué, très honnêtement. Je pense que les gens n'y croyaient pas forcément. Aujourd'hui, il y a plein de gens dans le monde du sport extrême qui viennent me voir et qui me disent franchement, j'y sais, on est trop fiers de toi et c'est trop cool. Enfin, et vraiment, j'apprécie leur retour et qu'ils pensaient eux que j'allais pas réussir, mais ils m'ont jamais dit, tu vois, personne m'a jamais freiné, mais ils ont pas forcément cru en moi au départ, quoi.
Tu dis dans une vidéo sur ton compte Instagram que la seule façon de faire, c'est de travailler plus que les autres pour réussir. Ouais. Bon, déjà, voilà, tu m'expliqueras aussi ta notion de la réussite, puisque la notion de réussite est assez subjective, et de travailler, bien sûr, sur sa passion. La question que je me pose, et d'ailleurs, c'est une question moi qui me traverse en ce moment, donc c'est intéressant, est-ce que tu crois au slow freelancing, finalement, ou tu penses que, voilà, le travail, il faut être dans le travail, dans le travail, dans le travail et dans la performance?
Ben, moi, ça a été mon cas dans le sens où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, j'ai fait énormément de sacrifices. C'est des choses que les gens ne voient pas et qu'on ne partage pas sur les réseaux sociaux, j'en parle souvent, mais beaucoup de sacrifices sur ma vie personnelle, privée, où par exemple, à partir de l'âge de 21 ans, j'ai décidé de ne pas me mettre avec quelqu'un, avec une compagne, vraiment à temps plein, je veux dire, c'est parce que je savais que dans le fond, ça allait être une contrainte de temps. C'est-à-dire que si je vis avec quelqu'un, forcément, ça allait être fantastique, on allait vivre des belles choses, mais je savais que je n'allais pas pouvoir pleinement me consacrer à mon travail. Donc, je me suis bloqué vraiment ça pendant plus de 6 ans. J'ai décidé de ne pas être là aux anniversaires importants de ma famille, des choses, des moments importants. Malheureusement, certains peuvent me reprocher un peu maintenant, mais je comprenne qu'en fait, il y avait une raison derrière. Donc oui, j'ai dû faire des sacrifices, travailler énormément, je comptais vraiment pas mes heures. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et même juste à l'école de commerce, sans parler de photos ou de vidéos, je le voyais avec les autres étudiants autour de moi qui faisaient de l'événementiel et qui, eux, simplement suivaient les cours qu'on avait. Et en fait, techniquement, si tout le monde suit les cours, à la fin, logiquement, on a tous le même niveau. Si tu travailles, on a tous le même niveau. Donc, comment faire la différence entre moi et celui à côté pour l'embauche derrière? Donc, moi, en fait, en parallèle, je crée des événements avec l'école parce qu'on avait des projets à faire. Et en plus, en dehors de l'école, où ça me prenait un temps fou, et ce qui me permettait de me dire que le jour où je sortirai de l'école, si je dois aller dans une boîte d'événementiel, je leur dirais, ben, regardez ce que j'ai créé déjà et regardez ce qu'il a créé lui à côté, rien du tout. Et en fait, c'est ce qui me permettait de me dire, ben, je vais faire la différence. Si j'ai des projets en plus à proposer, que j'ai réussi ou pas, les gens se diront, ok, il a déjà tenté quelque chose et puis il a une plus grande expérience forcément sur le terrain. Et même principe en fait avec la photo et la vidéo, le but c'est de ne pas s'arrêter, c'est de tout le temps faire des projets et c'est ce que je conseille aux gens, c'est de faire plein de projets personnels. Ne pas forcément aller chercher des projets professionnels directement pour gagner sa vie, juste aller filmer ses amis, aller filmer peut-être des gens qui ont des petites boîtes, mais des amis pour les aider. Et de là, en fait, tu vas faire plein de projets, les partager sans problème sur les réseaux sociaux, sans te soucier du reach, de savoir combien de likes tu vas avoir, parce qu'honnêtement, ça, on s'en fout complètement. Vaut mieux avoir 3 likes, mais 3 personnes qui veulent t'acheter un projet, que 10 000 likes et personne qui veut bosser avec toi. Donc, moi, c'est les conseils que je donne aux gens, quoi.
Hyper intéressant. Si tu devais décrire l'essence même de ta photographie à JC, qu'est-ce que tu dirais ?
Moi aujourd'hui j'aime beaucoup jouer sur l'émotion. C'est quelque chose qui, enfin, j'ai ma sensibilité qui a beaucoup changé depuis pas mal d'années. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez sensible. Mes parents le savent, ma mère surtout, mais au fur et à mesure des années, en développant pas mal de choses, en voyageant, j'ai découvert une nouvelle sensibilité en moi. Et je pense qu'en fait, c'est ça que je vais essayer de retranscrire dans mes images, dans mes photos, dans mes vidéos. Et il y avait même un projet assez marrant où j'avais filmé une carrosserie pour un pote. Et dans la vidéo, mon pote après me dit, franchement, j'y sais, j'ai pleuré en voyant la vidéo. Et là, je me suis dit, mais j'ai réussi à donner de l'émotion dans un projet où il n'y en a absolument pas. Parce que le gars j'ai réussi à mettre en valeur son travail, ce qu'il a durement créé en fait. Et c'est là où je me dis, ben ok, ça c'est ma valeur ajoutée, essayer de pouvoir mettre de l'émotion là où il y en a pas. Et si en plus on est sur un projet où il y a de l'émotion déjà, ben essayer de la croître au maximum.
Comment tu t'y prends pour générer, pour susciter cette émotion?
Je pense que déjà c'est au fond de soi. Toi par exemple dans l'animalier, je ne vois pas les animaux comme je pense que la plupart des gens les voient. C'est-à-dire que quand j'observe un animal, je réfléchis à beaucoup de choses, en fait. Déjà, la chance que j'ai d'être là, de l'observer, la chance qu'il a d'être encore là. plein de choses en fait derrière où je me pose un petit peu avant, je réfléchis et je me dis mais waouh, c'est fabuleux, c'est fascinant cet animal. C'est alors que la plupart des gens vont juste regarder et dire waouh, il est beau cet éléphant, ah ouais c'est joli, ah oh, sympa le lion et tout, ah oh, il a une belle crinière, etc. Mais ça en fait tout ça, techniquement je m'en fous en fait vraiment et je pense beaucoup plus loin et me dire mais il est encore là, j'ai la chance de l'observer. Est-ce que mes enfants auront la chance de l'observer? Allez vite, il faut que je capture ce moment-là, que je le partage à ceux qui n'ont pas la chance ou l'opportunité d'être ici. Et c'est aussi ça que les gens apprécient sur mes réseaux. Et les retours fantastiques que j'ai des gens qui me disent merci à toi parce que tu nous fais voyager, tu nous permets de voir des choses qu'on n'a peut-être pas la chance de voir. Et c'est, en fait, c'est ça que j'aime. Je veux pas que les gens me jalousent ou quoi que ce soit. Je veux qu'ils comprennent que j'ai envie de leur faire partager quelque chose. Et peut-être s'ils ont la possibilité un jour d'aller les voir eux-mêmes, ben là, ça serait fantastique. Et beaucoup de gens se disent « Ah ouais, maintenant, j'ai envie d'aller là-bas. Tiens, au lieu d'aller à Dubaï, eh ben, je vais aller au Kenya. » Et franchement, là, c'est fantastique quand les gens me disent ça.
Je comprends. Pourquoi justement cette passion pour l'animal sauvage? Comment tu as mis les pieds dans ce monde photographique? On voit sur ton compte Instagram, vraiment, voilà, tu es allé... Bon, énormément de destinations, photographier, capturer les instants d'énormément d'animaux. Donc moi, ça me fascine et on parlera ensuite de comment tu réussis aussi bien à les photographier. Mais déjà, pourquoi et comment finalement t'es allé dans ce monde-là?
Alors, très honnêtement, c'est allé petit à petit dans mes voyages. Je voyais un peu des animaux et je me disais, ben, outre l'humain qui était fascinant aussi, il y avait pas mal de choses que je voyais au fur et à mesure et je me suis dit, bon, bah ça aussi, c'est quand même sympa à photographier. C'est beaucoup plus compliqué à photographier aussi, donc c'est un challenge. Et après, il y a quelque chose que certains comprendront qui a changé ma vie, c'est mon chat. Et c'est assez fou, mais maintenant, il a plus de 5 ans. Et en fait, ce petit être, il a rapidement été malade, malheureusement, et je me suis encore plus attaché à lui. Et en fait, en étant très, très, très proche de lui, je me rapprochais en fait de l'animal, j'essayais de le comprendre encore plus et c'est ce qui m'a donné encore plus envie d'être proche de ces animaux. Moi avant, quand je voyais un chat dans la rue, bon ben, je voyais un chat dans la rue. Maintenant je vois un chat, j'ai l'impression que c'est le mien quoi. Tu vois, c'est assez dingue, j'ai absolument envie de l'approcher. Dans tous mes voyages, tous les chats que je vois, je les approche, je fais des photos avec eux, je les caresse. On essaye fraîchement de les sauver parfois. La dernière fois en Jordanie, on a sauvé un petit chat. Aussi, on a trouvé dans une animalerie, on est allé l'acheter, on l'a donné à des amis. Plein de petits trucs, en fait, juste, l'animal est devenu de plus en plus fascinant et c'est vrai que les animaux domestiques m'ont aidé à aimer encore plus les animaux sauvages et à vouloir les protéger.
D'accord. Et si tu peux peut-être revenir sur les étapes en fait d'un shooting, ta manière d'approcher un animal, comment ça se passe, est-ce que tu es seul, est-ce que tu es avec une équipe, pour qu'on parte un peu avec toi lors d'un voyage et lors d'un shooting ou d'un reportage.
Alors moi, c'est mon 6e safari que je fais. Ouais. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est pas par rapport à d'autres personnes, c'est pas beaucoup non plus en tant que photographe animalier. Mais voilà, je me lance vraiment là-dedans et ça me passionne. Mais pour ça, faut les faire avec les bonnes personnes. Ça, c'est très important. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer deux amis guides, un français, Valentin Lavis, et William, qui est un Maasai local, donc du Kenya. Et c'est toujours avec eux que je pars. Et parce que déjà, le fait d'être avec des très bons guides, ça va te permettre de pouvoir savoir où sont les animaux, de pouvoir les voir dans les bonnes conditions aussi, de bien les respecter. Ça, c'est très important. Et donc, c'est avec eux que je pars à chaque fois, quoi. Et on a encore pas mal de projets. Je repartirai avec eux très, très prochainement, sûrement. Voilà, donc ça, pour les gens aussi qui veulent faire un safari, essayez de partir avec des bons guides parce que l'expérience ne sera jamais la même. Mon dernier trip, il n'y avait rien à préparer spécialement puisqu'on partait faire un peu de photos et je recherchais rien de particulier. Par exemple, je n'étais pas sur un animal en particulier. On testait un peu des nouvelles techniques de shooting. Donc là, c'est juste, ben, on essaie de trouver les animaux et puis dès qu'on les trouve, on essaie de les approcher au maximum et faire les photos. Et après, il y a la partie documentaire où là, c'est un peu plus compliqué, plus complexe. Il y a beaucoup plus d'organisation, dont un documentaire que j'ai autoproduit et réalisé en 2021 au Kenya avec eux, avec la même équipe et des amis à moi aussi. Et donc là, par contre, là, au départ, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'écriture. Il faut savoir quel va être le fil conducteur. Les gens qu'on va rencontrer sur place, donc c'est aussi ces guides-là qui nous permettent de pouvoir approcher les gens qu'on va rencontrer. Il y a des locaux, il y a des associations, on est allé voir des rangers, on est allé voir des ONG, pas mal de choses. Donc tout ça, ça se prépare à l'avance pour avoir un planning. Et ensuite, forcément, dans un documentaire animalier, il y a aussi la surprise. Il y a beaucoup de choses qu'on va vivre sur place qu'on s'y attendait pas. Et il va falloir essayer après de bien le tourner pour que ça puisse s'intégrer aussi au documentaire. Et puis, il y a des choses fantastiques qu'on va vivre et qu'on pourra pas forcément mettre dans le docu parce que ça n'a pas de lien avec le sujet aussi. Donc voilà, et puis après il y a toute la partie montage qui prend un temps fou quoi.
Si on parle d'éthique animalière, j'imagine qu'il y a des choses à faire, à pas faire quand on approche un animal.
Ouais. Eh ben là c'est nous en fait dans ce documentaire là en plus on parle du tourisme de masse qu'on a clairement vécu dans le Maasai Mara au Kenya qui est l'endroit le plus touristique là-bas et on suivait 4 guépards et à un moment on s'est retrouvé avec une 50aine de voitures autour de nous. Avec les guépards pratiquement encerclés, et c'est ce qu'on dit dans le docu, à ce moment-là, on se regarde tous et on se dit « non, mais ça, c'est pas possible, c'est contraire à tout ce qu'on est en train de penser, à tout ce qu'on veut véhiculer, on part ». Voilà, donc on a réussi à faire 2-3 images, on est parti, on aurait pu faire d'autres images, mais non, on peut pas se dire qu'on peut rester là et voir tout ça et contribuer à ça, c'est pas possible, donc… Il y a plein de choses à faire, savoir approcher les animaux. Moi, des fois, je vois des touristes qui sont là dans les voitures, qui font « Ah, le petit chat !» Non, enfin, c'est pas possible. Et en fait, les gens ne le savent peut-être pas. C'est pas très grave au départ, dans un sens, ils vont pas tuer l'animal en faisant ça. Mais les guides autour doivent leur dire « Non, attendez, ça, vous devez pas le faire. » Et même certains guides ne leur disent pas pour le bien-être de leurs clients, en fait. On a vu des voitures accélérer à fond pour suivre des animaux, leur couper la route, le passage… Non, en fait, c'est pas possible. Même si je conçois qu'il y a certaines images qu'on veut avoir, mais à un moment, on est chez eux, en fait. On n'est pas chez nous. Donc, ils ont appris au fur et à mesure à vivre avec le tourisme, ce qui est pas mal. Le tourisme est obligatoire. Il y a plein de gens qui vont dire « Non, ben alors, si vous voulez les laisser tranquilles, n'y allez pas. » C'est très bien, mais sauf que s'il n'y avait pas de touristes, il n'y aurait plus d'argent et il n'y aurait déjà plus d'éléphants, plus de rhinocéros aujourd'hui pour payer tous les rangers qu'il y a autour pour les protéger. Donc, en fait, rien n'est tout rose. C'est pas possible. Mais sur place, il y a des choses à respecter.
D'ailleurs, ouais, tu parles de tout ça, mais j'imagine que tu dois assister. Enfin, toi, tu es engagé personnellement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tu as réalisé un reportage en Islande en immortalisant en photo et vidéo les lieux qui n'existeront plus dans quelques années. Je crois, il me semble que tu étais avec Enjoy Phoenix, la Marie d'Enjoy Phoenix. Non,
c'est ça.
C'est quelque chose que j'imagine qui est important aujourd'hui dans ton métier. Enfin, vraiment, t'es sensibilisé à des choses que nous, j'ai envie de dire, commun des mortels. Enfin, moi, à Paris, je vois pas. Quelle est ta vision, en fait, sur ce sujet et comment tu l'exprimes dans ta vie et dans ton métier?
Alors, le côté écologique est très compliqué pour moi. C'est très compliqué d'en parler parce que je suis pas irréprochable et j'en suis très conscient. Parce que je voyage beaucoup, j'ai donc une empreinte carbone qui est très importante, peut-être plus importante que la plupart des gens. Donc, j'essaye moi déjà par mes voyages de compenser tout ce truc-là par mes contenus, par le fait d'essayer que les gens comprennent en fait qu'il y a des vrais problèmes, et être conscient, être sensibilisé. Voilà, le but c'est de sensibiliser un maximum de personnes. Mais derrière, par exemple, le projet qu'on avait fait avec Enjoy Phoenix, malheureusement, il est jamais sorti parce qu'on devait le faire pour la télé. Et bon, bref, la télé, c'est compliqué. Mais c'est un projet qui avait quand même du sens parce que le but, c'était de partir en Islande et montrer là-bas un petit peu l'évolution des glaciers, ce qui se passe sur place. Et comme tu dis, justement, quand tu es dans une ville, à Paris ou quoi, tu vois pas cette fonte de glace, par exemple. Et comme les gens ne voient pas à l'œil nu les problèmes qu'il y a, ils se disent il n'y en a pas vraiment. Et moi j'ai un exemple assez frappant en Islande. Je suis allé visiter une grotte de glace en 2017, donc je fais des photos à l'intérieur. 2018, j'y retourne avec le même guide et il me dit à un moment, il me dit, tu te rappelles la photo de la grotte de glace que tu avais faite? Je dis ouais, là tu es sous la grotte, sauf qu'autour de moi il n'y avait plus rien et le glacier il était à 200 mètres face à moi. Et là, c'était assez choquant, en fait. C'est de dire, ah oui, en un an, le glacier, il a reculé de 200 mètres. Et ça peut être plus ou moins, quoi, mais c'est assez énorme. Donc, ça, c'est quelque chose... Enfin, dans mes voyages, j'essaie d'en parler un maximum. J'essaie de pas mal bosser avec des associations. Par exemple, à Marseille, il y a une association Clean My Calanque qui nettoie tout Marseille, enfin, qui est une association énorme que j'ai pas mal aidé aussi, que j'adore. Et ça, c'est une chose voilà, qu'on essaie de faire. Dans le dernier voyage, on a trouvé un lieu en plein milieu de la savane où il y avait des milliers de déchets. Ben, on a pris une heure et demie avec mon pote et on a tout ramassé. Et puis, on allait montrer ça aux rangers. On leur a dit, mais les gars, faites votre boulot. Quoi. Genre, ça, c'est pas à nous de le faire. Et les locaux, il faut les sensibiliser à ça. C'est pas possible. Tous ces papiers, ils s'envolent et les animaux vont les manger après. Donc voilà, j'essaie de faire des petites actions comme ça dans mes voyages, même si on ne sauvera pas le monde, honnêtement. Je suis conscient que moi, derrière, je ne suis pas irréprochable, mais au moins, j'essaie de faire quelque chose à mon échelle. Quoi.
Et d'ailleurs, est-ce que tu vois, est-ce que tu entends des choses dans la vie, on va dire, civile, qui te paraissent insensées et que tu souhaites démentir avec ce que tu connais justement du monde aujourd'hui via tes voyages
Alors, il y a des choses où c'est compliqué d'en parler, mais même moi, dans les safaris, parce que c'est aujourd'hui ce que j'essaie de faire le plus, mais il y a toujours une partie de corruption qui est très complexe, honnêtement. Même si j'ai eu la chance de rencontrer des rangers incroyables avec des associations où les mecs, tu sais que eux, ils sont pas du tout corrompus et tout, mais tu sais que ça arrive, il y a des rangers qui t'expliquent comment ça fonctionne. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est la chasse en fait au trophée. Donc les gens qui vont venir dans les safaris pour aller flinguer un lion et couper la tête et la mettre dans son salon, ben voilà quoi, c'est compliqué. Il y en a qui vont t'expliquer que c'est aussi grâce à ça que certaines espèces vont perdurer. C'est très compliqué, mais c'est pas si faux que ça dans un sens, mais c'est très complexe honnêtement. Pas forcément entrer dans ce sujet-là, mais c'est complexe parce qu'il y a une partie de régulation qui est obligatoire à un moment à cause de l'humain. C'est-à-dire que l'humain prend tellement de place, il va s'approprier la place des animaux, qui fait qu'à un moment, par exemple, sur un endroit particulier, il va y avoir trop d'éléphants parce que les humains ont pris la place. Et donc, s'il y a trop d'éléphants, eux détruisent énormément la végétation. Et donc, en fait, s'il n'y a plus de végétation, eux-mêmes, les éléphants vont mourir de faim parce qu'ils auront déjà tout mangé. Donc, on va dire, il faut réguler quelques éléphants pour que les autres vivent. Et pour les réguler, on va dire, il faut faire de la chasse comme ça. Et ça va faire rentrer de l'argent. Donc, c'est vraiment un domaine qui est très compliqué. Moi, je suis parti en Zambie aussi. J'ai voyagé dans un avion à côté de moi où il y avait trois chasseurs, deux hommes, une femme, avec leurs fusils. Et j'avais qu'une envie, c'était de les frapper, quoi, vraiment. Mais en fait... voilà, c'est comme ça, c'est horrible. Ils nous ont raconté que des fois, il y avait des super... En fait, ils ont des endroits particuliers où ils peuvent tuer des animaux et d'autres non. Et il y avait un endroit, on nous a raconté qu'il y avait un super beau lion. Et ben, le lion, il n'était pas dans l'endroit où on avait le droit techniquement de tuer. Alors, ils l'ont attiré avec de la viande et une voiture pour qu'il vienne dans le bon endroit et ils l'ont tué, quoi. Et en fait, voilà, moi, c'est ce genre de choses qui me dégoûte vraiment et que j'essaie de dénoncer plutôt. J'ai pas trop peur d'en parler. La corruption, c'est beaucoup plus complexe. Honnêtement, ça, c'est très, très compliqué. Je peux pas rentrer là-dedans. Mais tout ce qui est, en tout cas, la chasse, moi, c'est quelque chose, surtout à ce niveau-là, qui. C'est pas possible, quoi.
Je comprends. Une partie de ton métier, c'est finalement, j'imagine, beaucoup d'attentes, voilà, en attendant l'animal, en attendant de pouvoir prendre le bon cliché, la bonne photo. Est-ce qu'il y a finalement un côté thérapeutique pour toi dans ce métier?
Clairement, parce qu'en fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti là dans les deux, trois derniers safaris où, en fait, le monde s'arrête. C'est-à-dire que quand tu es au milieu de cette savane, de ces animaux, tu penses plus à rien. T'as l'impression que t'as plus de téléphone, t'as plus de mail, t'as plus de boîte aux lettres, tu sais, il n'y a plus rien, quoi. Et ça donne envie, hein, vraiment, ça donne vraiment envie de te dire « Ah, j'aimerais bien vivre là-bas, ouvrir un petit lodge et voir les animaux toute ma vie. » Et franchement, ouais, ça, c'est thérapeutique. Honnêtement, ça fait réfléchir à plein de choses. Et quand tu rentres ici, que tu prends l'avion, que tu arrives dans ta ville et que tu vois tout le monde, tu te dis « Oh, là, c'est vraiment un monde complètement parallèle. » Qui est pas mal non plus, parce que moi j'adore vivre en ville. Je pense que techniquement je pourrais pas vivre par exemple dans un endroit reculé toute ma vie, j'ai besoin du contact, mais de temps en temps partir s'évader dans un endroit où il y a vraiment personne et surtout ces animaux là, c'est fantastique, parce que ça peut te créer au fond de toi, surtout moi, une personne ultra sensible et qui réfléchit à tout ça, c'est vraiment incroyable, quoi.
Si on parle un petit peu voilà de ton activité, ceux qui voudraient en plus se lancer dans le même type de voilà de métier, à quel moment tu dirais que tes activités elles ont marché au point que tu puisses en vivre vraiment? Est-ce qu'il y a peut-être un projet, une photo qui a fait la différence pour toi?
Alors, comme je disais tout à l'heure, en parallèle de mes études, je commençais vraiment déjà à en vivre un petit peu parce que je faisais quand même pas mal de petits projets, on va dire. Et l'accumulation de ces petits projets, bah, ça faisait un petit revenu assez cool qui me permettait aussi d'investir dans mon matériel. Donc, à ce moment-là, on va dire que j'ai pu en faire mon métier. Mais là où vraiment ça a explosé, c'est le jour de mes 30 ans, donc il y a 3 ans, où j'ai créé ma formation photo-vidéo en ligne. Et ça, c'était un projet, un business model assez important pour moi qui pourrait me permettre par la suite, en fait, de pouvoir, grâce à l'argent généré, investir dans des projets qui me tiennent à cœur et où des clients ne m'auraient peut-être pas envoyé. Et c'est typiquement ce que je vis aujourd'hui. Donc, à mon sens, j'ai réussi ce que je voulais créer et ça me permet de partir en safari, d'autoproduire mes documentaires, de me faire plaisir et en fait, voilà, de kiffer la vie, quoi, honnêtement, de réaliser les images que je rêvais d'avoir. Parce qu'aujourd'hui, qu'une personne te dise « Hey, JC, est-ce que tu peux partir au Kenya me faire 2-3 photos de lions et de zèbres ? J'en ai besoin. » Personne ne t'envoie faire ça, tu vois. Donc, aujourd'hui, je peux partir librement. Si demain, je prends un billet d'avion et partir au Kenya faire ces images, je le fais. Et ça, pour moi, voilà, ça, c'est vraiment c'est ma fierté aujourd'hui d'être capable de faire ça, d'avoir ma formation aussi qui tourne énormément bien et d'avoir des élèves ultra satisfaits, des gens qui arrivent à vivre de leur passion aussi. Et ça, les retours au quotidien, ça fait chaud au cœur aussi.
C'est intelligent. Quels sont les types de clients que tu as aujourd'hui ? C'est qui est-ce qui te fait des commandes finalement de reportage ou de photos ?
Ben, pendant des années, j'ai eu beaucoup de clients. J'ai dû avoir plus de 500 clients, des très 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 grosses marques dans plein de domaines différents. Et aujourd'hui, j'ai pratiquement plus de clients parce que c'est ce que j'ai souhaité. En fait, on consacre tout notre temps. J'ai monté une équipe aussi pour mes formations. Et parce que voilà, je consacre mon temps là-dedans, c'est plus rentable aussi pour moi, ça me fait plus vibrer, j'ai moins de contraintes avec des clients. J'ai eu des clients incroyables où c'était super simple, d'autres où c'était super compliqué. Et en fait, ben, c'est pas plus mal. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment en fait quand même ce luxe de pouvoir choisir les clients. Donc j'en ai quand même quelques-uns. Je travaille toujours un petit peu dans le sport extrême parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais après, il y a plein de choses, on va dire les soirées, les mariages, tout ça, j'en fais plus, même si c'est des projets que je renie absolument pas. Et qui sont vraiment cool. Et je pense qu'honnêtement, même si j'en dis un demain, je me régalerai quand même. Mais c'est plus trop ce qui me passionne maintenant. Voilà. Je voudrais dire que j'aime aussi tout le temps changer. Je peux pas être dans une routine. C'est impossible pour moi. Et peut-être que dans un an, je sais pas, je changerai aussi, quoi.
Et finalement, ça crée pas l'épuisement, ce fait de devoir tout le temps changer.
Alors ça, je me suis forcé à faire pas mal de choses, à prendre plus de temps pour moi. Même si au début, c'était compliqué. Je peux me le permettre maintenant parce que voilà, j'ai des rentrées financières qui me permettent ce genre de choses. Mais au début, c'est vrai que c'est complexe, mais il faut arriver à se forcer. Moi, par exemple, tous les matins de 8 à 9, je vais au sport 5 fois par semaine. Donc ça, c'est une obligation pour moi. Je refuse tout projet avant. Je me dis vraiment, à part si c'est vraiment un truc incroyable. Mais voilà, tout rendez-vous avant, ce n'est pas possible. Je fais mon sport et ensuite, ben, j'essaie de faire d'autres choses après, d'autres activités. Et j'essaie maintenant de rentrer plus tôt à la maison aussi. J'essaie de me forcer à faire ça. Mais comme je t'ai dit, c'est parce que je peux me le permettre maintenant, en fait. Avant, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'avais des projets où à l'école, je finissais à 20h30. Fallait que je rentre, fallait que je bosse. Ensuite, j'allais faire du vélo parce que j'étais quand même professionnel en vélo. J'avais des sponsors, j'avais des choses à faire. Puis j'avais des projets vidéo. Les week-ends, je les passais à faire des projets vidéo. Je ne m'arrêtais pas non-stop. J'ai failli faire plusieurs burn-out, mais voilà, j'étais à la limite. Et c'est compliqué, en fait. Faut arriver à faire le bon choix. Je pense qu'il y a des périodes de sa vie où, malheureusement, ben, on va être crevé. Mais ben, comme tout à l'heure, tu parlais du slow freelancing. Non, enfin, tu vois, à mon avis, c'est pas en faisant rien que les choses arrivent, très honnêtement. Donc, je regrette pas du tout ça. J'ai pris un bon coup sur ma santé. J'ai perdu quelques cheveux au passage.
Ah ouais, quand même.
mais voilà, enfin, je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, ben, ma famille est assez conscient que ces sacrifices, fallait les faire. Mais voilà, sans regret, quoi.
Comment tu as senti finalement ce burn-out arriver et qu'est-ce que tu as fait pour t'en prémunir ? C'est d'ailleurs, je trouve, hyper juste de souligner qu'on parle uniquement du burn-out salarié en général, mais finalement assez peu du burn-out à son compte ou freelance. Donc c'est intéressant franchement d'évoquer le sujet avec toi.
Ben, moi, je crois que c'était en 2017. J'avais calculé, j'ai pris 77 avions dans l'année. C'était énorme.
Ah ouais.
J'ai calculé aussi, j'ai passé entre les transports, les attentes dans les transports, les trains, les avions, tout, j'ai passé 3 mois de mon année dans les transports. Donc c'est énorme. c'est vraiment énorme, énorme. Et tout ça tout seul, en fait. C'était une période où je n'avais pas d'équipe encore. Et c'est ultra fatigant. C'est des choses qu'on ne partage pas du tout sur les réseaux sociaux, où les gens pensent qu'ils voient juste la belle photo et disent « Ah, oh, franchement, tu étais en vacances, tu t'es régalé et tout. » Non, non. En fait, ça, c'est une photo qui m'a pris à peu près 3 secondes à faire, 5 minutes à l'éditer. Mais par contre, derrière, je me suis fait chier pendant un mois pour faire ça, quoi. Et en fait, tout ça, les gens ne le voient pas parce que les réseaux sociaux, c'est ça, c'est pas partager le négatif, c'est toujours partager le positif.
Il y en a qui partagent le négatif, mais c'est vrai que voilà, quand t'es un peu pudique et que t'as pas envie forcément de t'étaler trop, tu le partages pas.
Ouais. Mais c'est clair. Moi, par exemple, dans mes formations, c'est que j'ai toute une partie développement personnel où j'explique tout ça, tous mes échecs, mes réussites, enfin toute cette partie aussi négative de ma vie. Ça intéresse pas mal les gens, et dans les podcasts comme avec toi aujourd'hui, j'adore en parler sans tabou, honnêtement, parce que il faut en parler, il faut arrêter de croire que tout arrive par hasard. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir une enfance joyeuse aussi, donc je vais pas cracher là-dessus. Et puis il y a d'autres personnes qui ont eu des enfances un peu plus compliquées aussi, et tout ça, les gens n'en parlent pas toujours, et on croit toujours parce que ils ont réussi, oui, forcément tout était facile pour eux. Non, tout le monde a des contraintes différentes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Honnêtement, moi j'ai eu des choses qui m'ont aidé dans ma vie et d'autres qui m'ont moins aidé. C'est difficile pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en 2017, je me rappelle de ce dernier projet que j'ai fait au Maroc où j'étais dans une eau glacée à faire des photos sous l'eau et où le client, j'étais censé faire 10 photos pour eux sous l'eau pour une campagne publicitaire et tout compte fait, ils m'ont dit « Oh, ça te dit pas, on décline, on fait tout le lookbook. » Allez, boum, on part pour 2500 photos sous l'eau. Et tu vois, en plus, c'est que le client te dit « Ah bah oui, mais non, en fait, comme tu es là, c'est pareil, c'est le même tarif, de toute façon. » Et tu vois, tu apprends de pas mal d'erreurs, pas mal de choses. Je dis « Bah ouais, mais bon, c'est pas 10 photos que je vais trop toucher, c'est 2500. C'est pas 10 que je shoote, c'est 2500. » Enfin, plein de choses. Et en fait, là, j'étais vraiment arrivé à bout après tous ces voyages-là. Et là, je me suis dit « Voilà. » Il va falloir se calmer, accepter tous les projets, c'est fantastique parce que c'est très compliqué en fait de dire non. À un moment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup de projets. Moi, j'avais eu la chance d'être pas mal recommandé, d'avoir pas mal de choses. Donc, quand ça arrive, c'est dur de dire non, honnêtement. Et je disais oui à tout, tout le temps. Je voulais tout le temps aider les gens, faire plein de projets, même gratuits pour mes amis, pour les aider un maximum. Et là, maintenant, même aujourd'hui, je commence à dire non. C'est difficile. Très honnêtement, mais voilà, maintenant j'apprends à dire non parce que sinon, honnêtement, j'y arriverai jamais et je tiens le bal, quoi. Enfin, vraiment, c'est les gens ne réalisent pas le travail qui y a derrière tout ça, quoi.
Non, mais c'est cette peur de manquer qui peut conduire en plus à.
Oui, parce qu'à un moment, en fait, tu te dis oui, c'est du boulot, je prends, c'est de l'argent, ça permet d'investir dans du matos. T'as la chance d'avoir cette caméra. Non, j'ai pas de la chance d'avoir cette caméra. Tu crois que je l'ai pondue, la caméra? Je l'ai achetée. Et pour l'acheter, il faut travailler. Il y a plein de choses comme ça. Les gens, ils pensent qu'il y a beaucoup de choses qui tombent du ciel, mais pas du tout. Aujourd'hui, ils vont dire, t'as de la chance d'être ambassadeur Canon, ils te donnent les caméras. Est-ce que toi, tu l'es? Non, il y a une raison pourquoi tu ne l'es pas. Tu vois? Parce que j'ai travaillé dur avant, parce que j'ai développé plein de choses pour qu'ils, aujourd'hui, puissent me donner des caméras. En fait, rien n'arrive par hasard. Et ça, il y en a certains qui ont du mal à le comprendre, quoi.
Exactement, mais surtout chez les jeunes et la nouvelle génération, c'est une société où vraiment les jeunes pensent qu'il y a plus trop cette valeur travail, justement, avec cette ère des influenceurs où ils ont l'impression que c'est l'argent facile et tout, et ils s'imaginent pas le boulot que c'est derrière pour en arriver là, quoi.
C'est ça. Et même un influenceur, tu vois, même un gros influenceur, tu vas dire, tiens, une Nabila ou quoi, oh, il faut rien de sa journée. Je suis pas si sûr que
pas
ça.
Du tout.
Je suis pas si sûr que ça, honnêtement. C'est des gens, surtout elle, en plus, c'est une vraie entrepreneuse, honnêtement.
Ouais, complètement.
Et en fait, même pas ça. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu une visibilité immense d'un coup, qui les ont propulsés, mais après, au quotidien, ils ont quand même énormément de travail, en fait. Voilà, c'est juste c'est vrai qu'ils ont eu un truc au départ, ils n'ont pas eu à cravacher énormément pour se trouver 2 millions de followers. Moi, je ne les ai toujours pas aujourd'hui, et pourtant, je travaille dur. Mais c'est. Après, il y a quand même du travail derrière, et il ne faut pas cracher dessus, quoi.
Bien sûr. Et ce burn-out, du coup, pour en dire trois mots, comment tu l'as senti en toi venir? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ouais, physiquement. physiquement, j'étais épuisé. Non, non, vraiment, là, c'était, je pouvais plus rien faire, quoi. Et je le ressentais, là, je le ressentis un peu aussi à la fin de l'année. C'est pour ça que j'ai décidé, pour la première fois de ma vie, de prendre une semaine de congé sans partir. C'est-à-dire que, avant, quand je prenais des vacances, je prenais un peu des vacances, même si c'était rare, mais je partais toujours en voyage. En fait, j'utilisais ces vacances-là pour me dire, tiens, je vais me faire un voyage où je pars pas pour un client, je vais juste me faire mes petites photos. Mais en fait, techniquement, t'es pas en vacances. L'année dernière, je suis parti à Sumatra avec des amis et ma compagne. C'est 3 semaines à aller crapahuter, à aller voir les tribus, les machins, les orang-outans et tout. C'est incroyable. J'ai fait des images que je rêvais de faire, mais j'étais pas en vacances, en fait. Tu vois? Et même là, en safari, on m'a dit, non, mais un safari, c'est pas des vacances. Safari, c'est un safari. Ça s'appelle pas des vacances. Quand tu te lèves à 5h le matin, même pas à 4h le matin, que tu pars à 5h, tu rentres à 20h, c'est pas des vacances. Tu vois, c'est une expérience. Et donc là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, avant Noël, je reste 1 semaine, 10 jours chez moi à rien faire. Enfin, je faisais des tâches chez moi, des choses que je voulais faire tranquille. Et ça m'a vraiment reposé, quoi. Et puis, en fait, c'est ces moments-là qui te permet aussi de retrouver un peu de créativité, de réfléchir à certaines choses et de repartir à fond, quoi. Parce que si t'es toujours tendu, ben en fait, ça fonctionne pas. T'as l'impression que ça fonctionne parce que t'as plein d'idées et que tu fais plein de choses, mais en fait, peut-être que tu les fais mal, les choses, et c'est pas bon.
Et aujourd'hui, est-ce que dans ton métier, du coup, tu te fixes tes règles, peut-être, j'accepte pas tant de projets ou je...
Ben oui, alors ça, j'essaie de faire attention. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'essaie aussi de faire attention sur mon emploi du temps, c'est-à-dire sur mes horaires. Donc ouais. Voilà, 8-9 heures, le sport. Je vais au bureau à partir de 9h15 à peu près. Et je pars à 17h, 18h grand max. À part s'il y a vraiment une urgence, un gros truc à finir. Et voilà, c'est ce que je me fixe pour être chez moi. Parce que j'essaye aussi de développer une vie familiale, d'avoir un enfant, de faire des choses. Et donc de m'habituer un peu à cette vie le jour où j'aurai un enfant. Et c'est compliqué parce que je ne peux pas vraiment savoir puisque j'en ai pas. Mais je me dis que si je travaille comme avant et du jour au lendemain j'ai un gosse, je suis mort, quoi. Donc j'essaye au préalable de un petit peu rentrer dans cette petite routine pour essayer d'être prêt au moment venu, quoi. Et ça, c'est important, hein. C'est très important.
Justement, si on parle de cet équilibre vie pro-vie perso, ça ressemble à quoi pour toi avec un tel
métier ? Il y a des moments où j'en parle pas forcément dans ma formation, mais en fait, tous les sacrifices que j'ai pu faire, c'est pas toujours facile avec ta famille. Honnêtement, il y a des gens qui le comprennent, d'autres qui le comprennent pas. Et malheureusement, là, récemment, ça a un peu clashé avec une personne de ma famille. Et c'est vraiment dommage. C'est très, 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 très dur d'avoir ça dans ta tête, de te dire c'est vraiment dommage parce que tu essayes tout pour que ça revienne, mais que cette personne, elle veut pas entendre parler de ce... Enfin, elle veut pas t'écouter, tu vois. Et tu t'excuses et... Et elle s'en fout en fait de tes excuses, elle va toujours te trouver quelque chose à redire. Et franchement, c'est compliqué. Tu te demandes s'il n'y a pas de la jalousie derrière, tu te demandes s'il n'y a pas d'autre chose. Et franchement, ça fout un coup au moral et c'est dur de l'enlever de ton esprit, très honnêtement. Donc, ça, c'est quelque chose qui me pèse vraiment aujourd'hui. J'essaye de me dire, je m'en fous, ma vie continue, et puis voilà. Mais quand c'est quelqu'un proche de ta famille, derrière, c'est quand même pas facile à assumer, quoi.
Non, mais c'est dur de trouver cette balance travail, équilibre, vie pro, vie perso, surtout quand on est dans ton genre de métier, c'est pas évident.
Mais surtout quand on est ultra sensible.
Bah oui.
Parce que, tu vois, je te donne un exemple d'un photographe. Moi, par exemple, on me dit souvent, ça serait bien que tu partes avec, pourquoi tu travailles pas avec Hugo Clément, aller faire des projets. J'ai dit, je ne peux pas faire ce que fait Hugo Clément. En fait, je respecte absolument ce qu'il fait parce que lui, il va dénoncer des problèmes. Je lui dis, moi, je ne peux pas. Moi, je veux montrer de l'espoir parce qu'en fait, ce qu'il voit, lui, je ne pourrais physiquement pas tenir. C'est-à-dire qu'il va partir voir des atrocités, des animaux en train de mourir, etc. Et je ne peux absolument pas faire. Ça, c'est moi, je sais que je me tire une balle. Et il y a un exemple d'un photographe. Alors, je sais pas le nom, mais il y a une photo très célèbre il y a pas mal de temps. Je ne sais pas si tu la connais. Je crois que c'est un petit Éthiopien accroupi à côté d'un vautour.
Si, je crois que ça me dit quelque chose. Je l'ai vu passer, je pense.
Tu vois qu'il a la peau sur les os, ce petit. Et tout le monde lui a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas sauvé ? Il ne pouvait pas le sauver, en fait, ce gamin. Et en fait, ça l'a tellement traumatisé, ce photographe, qu'il s'est suicidé ensuite. Et ça, c'est horrible. Donc moi, c'est surtout ce que je ne veux pas vivre, parce que je sais très bien que c'est ce qui pourrait m'arriver. Connaissant ma sensibilité, c'est pas possible. Moi, je vois un pigeon qui marche seul dans la rue, ça me fait de la peine. Donc, des fois, je fais attention, je me dis, j'y sais, fais gaffe, parce que là, ce que t'as dans la tête, c'est pas bon, t'es beaucoup trop sensible. Il faut que tu fasses attention, parce que, enfin, un pigeon qui marche dans la rue, ça te fait de la peine, c'est pas bon, quoi. Donc, si je vois ça, bah, une scène pareille, c'est pas possible.
Mais c'est beau la connaissance de toi que t'as développée à travers ce métier, en fait. T'es complètement, enfin voilà, tu te connais, quoi. Tu sais vraiment les projets qui vont te faire du bien ou qu'au contraire vont donner de l'énergie ou au contraire vont totalement te retirer ton énergie ou te mettre en énergie négative, quoi. T'as déjà justement eu, tu t'es déjà demandé si tu voulais pas tout arrêter ou si c'était pas mieux que tout arrête, enfin des moments où tu t'es dit ok, bon, je fais autre chose parce que c'est trop dur, quoi.
Ben, j'ai jamais vécu de moments trop durs, comme je viens de te dire, parce que je m'efforce de pas les vivre. Tu vois, par exemple, à Madagascar, je leur ai pas dit, je veux aller voir la pauvreté de Madagascar. Je ne peux pas aller voir ça. J'ai dit, montrez-moi un petit village incroyable, on va aller s'amuser avec ces gens, on va aller découvrir ce qu'ils font, mettre en valeur ce qu'ils font au quotidien. Là, tu vois, on a pour projet de retourner à Madagascar dans un village qu'on avait visité. Et là, je souhaite, en fait, dans ce village-là, les petits font 8 à 12 kilomètres de marche par jour pour aller au collège, par exemple. Et donc c'est pas quelque chose qui va me choquer visuellement, tu vois, mais ça va me choquer dans le bon sens. Là, c'est pas pareil. Et j'ai envie de vivre cette expérience. J'ai envie de marcher avec eux le matin, voir ce qu'ils vivent. Et là, ça va être fantastique, tu vois. Je vais pas voir des enfants en train de mourir. Je ne peux pas faire ça. En fait, c'est pas mon rôle. C'est impossible.
Quel voyage shooting as-tu préféré en 15 ans d'activité? Est-ce que t'as quelque chose de groustillant à nous raconter ou des anecdotes?
Alors, en voyage préféré,
ce que t'as préféré est peut-être le plus anecdotique ou
Alors préféré, c'est impossible à dire parce qu'il y en a tellement. J'ai fait plus de 70 pays et plusieurs fois certains, mais j'en parle souvent, mais Madagascar en 2019 a changé ma vision des choses. On était parti pour un projet où on devait tout simplement communiquer pour l'aéroport de Marseille et une agence locale, faire quelques photos. Et je suis parti avec mon pote Julien Oliva sur place. Et dès le premier jour, je lui ai dit non, mais attends, on ne peut pas juste venir faire des photos. Ce qu'on est en train de vivre, c'est du dingue. Donc, on va documenter tout ça. On va faire un documentaire. Je ne sais pas comment on fait un documentaire. On s'en fout. On filme tout et on verra bien après. Et de là, en fait, c'est l'expérience qui a changé ma vie, où je me suis dit, maintenant, j'ai plus envie de travailler pour des clients, honnêtement, parce que ça me sert qu'à moi et à eux, techniquement, ce que je suis en train de créer. Et un documentaire, par contre, ça peut me servir à moi, à des clients qui vont sponsoriser, par exemple, mon projet, et aussi plein de gens que ça peut inspirer et aider. Et ce film-là, aujourd'hui, il a plus de 800 000 vues sur YouTube, qu'on a mis gratuitement, et on reçoit tous les jours des messages de gens qui nous disent merci, que Dieu te bénisse, tu as redonné de l'espoir à mon pays. Enfin, des choses incroyables, honnêtement, où j'ai décidé en fait de montrer le monde caché. J'ai appelé ça Madagascar un monde caché. Donc vraiment, tout ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir de Madagascar, pas montrer la pauvreté, et plutôt montrer les gens qui sont quand même heureux d'avoir ce qu'ils ont, même s'ils sont pauvres matériellement, mais pas au fond d'eux. Et ça, ça a beaucoup plu. On a même été remercié par la présidence de Madagascar. Donc, c'est allé vraiment très haut sur un projet où il y avait zéro communication. Honnêtement, c'est juste que les Malgaches sont très fiers de leur pays et ont énormément communiqué sur ce film-là. Et voilà, et ça, ça a changé ma vie. Je me suis dit, à partir de là, c'est ça que je veux faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire d'autres petits documentaires que j'ai autoproduits derrière parce que ça me passionnait.
Est-ce que tu as des anecdotes de voyage, des choses qui sont peut-être pas passées comme prévu ou qui t'ont marqué?
Il y en a plusieurs, mais il y en a une où j'ai failli me faire attaquer par un ours polaire à Svalbard.
Ah, quand même.
Donc, on était pour faire rapide, on était dans une tente et donc en fait déjà je suis parti avec un ami et un guide. Déjà le guide pendant une heure il cherchait le spot où on devait se mettre, donc il n'arrivait pas à trouver. Donc, pas très rassuré. On trouve ça après, on met notre tente, il faisait moins 35 degrés, les aurores boréales fascinantes, enfin, c'était magnifique. On fait quelques photos et après on dort. Et puis d'un coup, on entend les chiens, il y avait les chiens de traîneau qui étaient attachés devant, qui se mettent à hurler à la mort comme si quelqu'un était en train de les égorger. Et en fait, le guide nous dit non, mais c'est parce qu'il y a un ours polaire pas loin, c'est pour ça que les chiens crient, quoi. Je dis ok, bon, nous on est dans une tente en plastique, quoi, tu vois, et je me dis bon. Et on n'a pas grand-chose pour défendre. Alors lui, il a un fusil techniquement, mais je rêvais qu'il ne s'en serve surtout pas.
Bien sûr.
Et donc là, il part, le guide, il me dit « je vais voir ». Puis on attend, et puis on n'entend rien. Et on dit, putain, il s'est fait bouffer ou quoi, c'est pas possible. Et en fait, après, il revient et il nous dit, non, c'est bon, l'ours, il est parti, il devait juste être curieux, il était pas affamé, quoi. Et là, ça a été une grosse peur quand même, parce qu'on s'est dit, bon, s'il avait eu faim, techniquement, normalement, vu comme on était organisé, il aurait dû d'abord attaquer les chiens. Mais bon, quand même, donc j'ai dormi toute la nuit avec ma lampe torche allumée et mon couteau suisse ouvert. Je me suis dit, s'il arrive, je me défendrai comme je peux, mais voilà, je suis très heureux que c'est fini comme ça.
C'est clair. Et qu'est-ce qu'on fait pendant toute cette attente? Voilà, j'imagine que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes dans ton métier pour prendre un shooting. À quoi on pense?
Alors, moi, c'est vrai que j'ai jamais fait énormément d'affûts, on appelle ça, où on va vraiment attendre, cacher pour attendre les animaux, parce qu'en safari, on a la possibilité de facilement les approcher avec les véhicules et les animaux n'ont pas très peur, honnêtement, puisqu'ils sont habitués. Donc ça c'est assez cool. Et le truc, c'est que ensuite, c'était dans mon dernier projet, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que on voulait vraiment faire de l'affût et on est parti dans des lodges qui proposent en fait ces affûts-là. Et là, par contre, on a passé 4 nuits où de 17h jusqu'à 7h du matin, on était dans un affût où on ne pouvait pas faire de bruit. Et à observer les animaux, il y avait des éclairages exprès pour pouvoir les photographier la nuit. Et là, c'était fascinant, honnêtement, d'entendre tous les bruits qu'il pouvait y avoir. Et là, tu penses à plein de choses. Moi, je pense aussi à mes projets, parce que j'ai des problèmes dans ma tête où j'ai toujours besoin de travailler. Donc, ça, c'est un truc sur lequel il faut que je bosse. On attendait les animaux, on écoutait. Les guides nous disaient, voilà, on entend des bruits de singes. Ça, c'est des bruits d'alarme de singes. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un léopard qui est pas loin. Donc là, on est à l'affût, on regarde. Ça, c'est très intéressant aussi d'être avec des gens qui connaissent vraiment la nature et de te dire, il y a ça qui peut arriver parce qu'il y a ce bruit-là, parce qu'on a vu ces traces.
Ça t'est déjà arrivé, les échecs dans ton métier, de pas réussir à ce que tu voulais faire, que ce soit en prise de vidéo ou de photo? Et si oui, comment tu gères ça?
Alors, dans des projets publicitaires, tout ça, non, parce qu'on va dire que tout est prévu à l'avance et que normalement, tout se passe bien. Après, dans l'animalier, c'est là où c'est plus compliqué. Et comme par exemple, dans le dernier voyage-là, il y avait des photos qu'on rêvait de faire dans ces affûts où tu as un point d'eau avec les animaux qui viennent boire. Et c'est vrai que le lion, le léopard, c'est deux animaux qu'on voulait voir photographiés. On a eu la chance de les voir, mais ils sont juste venus, ils sont passés, ils sont repartis. Et là, c'est vrai que c'est assez frustrant parce que en fait, c'est aussi des affûts qui coûtent très très cher. C'est un très gros investissement. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Parce que franchement, 17h, 7h du matin, en dormant, te réveillant, c'est compliqué pendant 4 jours d'affilée. Mais c'est la nature et il faut être conscient de ça. Ça, c'est très important. Et en fait, je n'ai pas vraiment été déçu. Je me dis, c'est comme ça, je reviendrai. Et c'est un peu le souci des fois que mes amis guides ou d'autres guides ont avec des clients, c'est que les gens se disent, moi, je vais dans un safari, je vais voir un lion. T'es pas au zoo. Si tu vois pas le lion, c'est qu'il n'y avait pas le lion, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et tu as beaucoup de clients, des fois, qui se plaignent de tout ça, tu vois. Et c'est là où il faut être conscient qu'en fait, tu es dans la nature, tu n'es pas dans un zoo, et que si les animaux ne viennent pas, si qu'ils ne devaient pas venir. Et c'est souvent ce que je me dis, en fait, si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne devaient pas se faire. Et il y a plein de projets comme ça dans la vie qui arrivent, tu bosses dur pour ça, ça ne se fait pas, ça ne devait pas se faire, c'est pas grave, et puis on verra, la prochaine fois, on aura peut-être un peu plus de chance.
Ok. Comment t'expliques cet engouement sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, tu as quand même une grosse communauté, tu as quand même un engagement assez conséquent sous chacune de tes publications. Comment tu as fait, déjà, pour créer cette communauté vraiment engagée autour de toi? Et comment tu expliques aussi cet engouement des gens pour ton travail?
Alors, au départ, il y a beaucoup de gens qui me suivaient pour le sport extrême. Et petit à petit, il y a quand même certaines personnes qui sont restées et d'autres sont parties, forcément, puisque c'est plus trop ce qui les intéresse. Au début, moi, j'étais beaucoup dans le voyage, un peu blogueur, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc, j'ai une belle communauté grâce à ça aussi. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce que je souhaite partager. Après, j'ai travaillé aussi avec des personnes qui m'ont apporté de la visibilité, comme Enjoy Phoenix. J'ai travaillé avec d'autres personnes comme Charles Leclerc, même en F1, enfin pas mal de choses assez cool. Et petit à petit, après, c'est ton contenu. Le but, c'est de créer quelque chose d'un petit peu différent qui peuvent essayer d'intéresser les gens, d'être réactif aussi. Moi, je sais que les gens, quand ils me contactent sur les réseaux sociaux, je réponds à tout le monde, absolument. Si je réponds pas, c'est que le message il est pas passé du tout, honnêtement. Et ça, c'est, les gens apprécient vraiment ça aussi. Donc ça, c'est très, très cool. Et je pense que c'est un petit peu tout ça qui fait qu'on arrive à évoluer. J'ai jamais eu vraiment de vidéos, de photos qu'on buzzait au point de me dire, tiens, boum, t'as pris 50 000 followers d'un coup. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a les reels sur Instagram qui te permettent de potentiellement buzzer. Donc ça, c'est cool. Ça a permis à pas mal de gens de vraiment se faire connaître d'un coup. Moi, ça n'a pas été le cas, honnêtement. Donc, c'est vraiment arrivé petit à petit. Aujourd'hui, c'est compliqué. Je trouve que, enfin, moi, personnellement, ça fait quelques années maintenant que je stagne sur les réseaux. Mais peu importe. Donc, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir quand même une communauté. Mais c'est compliqué, honnêtement, de se développer sur les réseaux. Là, maintenant, j'essaie de lancer des choses un peu différentes où je parle maintenant. Je fais des reels où je vais expliquer des choses aux gens.
Ouais.
Voilà.
C'est canon, je trouve.
Ben, merci. Mmh. Voilà. Je trouve qu'il y a vraiment. C'est quelque chose de nouveau, c'est des expériences que j'ai vécues pendant mes voyages et j'ai envie de les partager aussi grâce à mes images au milieu pour illustrer. Et ça fait un peu jamie, quoi, tu vois. Mais c'est marrant, enfin, parce que moi, je trouve ça ultra intéressant. Les gens apprennent des choses. Moi aussi, j'apprends des choses puisque ouais. Souvent, c'est des choses que mon guide me partage et qu'après, ben, j'écris, je note, j'illustre et on fait le montage avec mon équipe et on partage ça. Voilà, donc ça a bien marché sur TikTok, honnêtement. Ça commence un peu à prendre. C'était pas une plateforme moi que j'aimais TikTok honnêtement, mais si on peut retrouver du contenu un peu de qualité qui te permet d'apprendre des choses, bah, je trouve que c'est intéressant.
Pourquoi tu veux plus faire blogueur voyage, t'as une mauvaise image?
Parce que c'est pas ça, pour moi aujourd'hui ça a plus trop de sens en fait. Et je l'ai fait, hein, je critique pas forcément ça, mais de me montrer moi au milieu d'une piscine, moi ça me passionne pas. Je trouve qu'il y a toujours des très belles images à faire. Mais on n'apprend rien, en fait. Et c'est un peu exactement comme je disais avec mes clients avant. C'est, si je vais filmer demain pour une marque de voiture, c'est cool, mais ben, moi, j'apprends rien. La marque, elle apprend rien. Les gens non plus. Tu peux faire des belles images parce qu'il y a des gens qui veulent savoir comment faire des belles images de voiture, par exemple, mais ben, ça ne me fascine pas, en fait. J'apprends rien. Donc, c'est pas ce que je souhaite véhiculer aujourd'hui. Et je trouve que les animaux, enfin, c'est quelque chose de fascinant. C'est quelque chose que les gens... n'ont pas forcément tous la chance de voir aussi, et donc en fait tu procures quelque chose de nouveau aussi pour les gens, et c'est ça qui me motive, honnêtement.
Est-ce que t'es fier de toi?
Ben je pense aujourd'hui oui, sans prétention être fier de moi, parce que j'ai réussi à vivre de ma passion, et ça en fait c'est vraiment, je pense que c'est la base de tout. Mon père m'a toujours dit, le matin quand tu te lèves il faut que tu sois content d'aller au boulot, et c'est ce que j'ai fait en fait. Comme on disait au début, je voulais pas forcément être photographe ou vidéaste au départ, enfin c'était pas une vocation. C'est venu petit à petit, j'ai eu une nouvelle passion, je pouvais pas vivre du vélo parce que j'étais pas assez bon, j'étais pas assez bon tout simplement pour vivre de ça. Mais l'image, je sentais qu'il y avait quelque chose, j'avais des bons retours des gens, et aujourd'hui, je vis de ça, et comme je t'ai dit tout à l'heure, si demain je peux prendre mon billet d'avion, partir au Kenya et faire des photos d'animaux, donc je vis mon rêve, donc oui, je suis fier, ça c'est sûr.
Et si tu as des conseils qui sont peut-être issus de ta formation, mais pour ceux qui nous écoutent, juste voilà la base pour toi pour réaliser un bon cliché, des petits tips que tu peux nous divulguer.
Alors déjà pour les gens, n'hésite pas, ils peuvent aller sur mon site parce que j'offre des formations au départ pour qu'ils puissent apprendre toutes les bases en fait. Donc ça, j'ai décidé de créer ça pour que les gens puissent connaître tous les réglages de base pour pouvoir se lancer un petit peu là-dedans. Et après, en fait, c'est pas si compliqué. Moi, pendant des années, les réglages, je les connaissais même pas. Pour être honnête, il y a plein de choses où je me trompais. Moi, des gens qui étaient vraiment professionnels là-dedans, qui connaissaient tout ça, m'ont dit après, non, mais j'y sais, là, c'est pas possible ça, mais tu peux pas régler ta caméra comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, c'est tout compliqué. C'est tout simple. Genre, en deux secondes, tu me dis, hop, je le sais. Mais en fait, moi, pendant des années, j'ai plutôt focalisé sur le cadrage, l'émotion. Essayer de monter des images. Alors, mes images, elles laguaient un petit peu parce que je n'avais pas le bon réglage. Mais tout compte fait, mon cadrage, il était beau. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui est le plus compliqué à avoir, c'est avoir des belles images. Les réglages, on les apprend en 5 minutes. Honnêtement, ce n'est pas grand-chose. Et c'est ce que je dis aux gens, d'essayer, comme je disais tout à l'heure aussi, de faire le maximum de projets personnels parce que c'est vos plus beaux projets. C'est les projets où vous allez avoir libre cours à votre imagination, carte blanche. Et là, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Et en fait, c'est là qu'on va vraiment, vraiment évoluer. Et en faisant ces projets, c'est comme ça qu'on se développe et qu'on trouve ensuite des clients aussi, honnêtement, et qu'on développe aussi sa passion.
Merci beaucoup. On va finir par des petites questions en vrac. L'idée, c'est d'y répondre assez rapidement. Ta plus grande peur, si tu en as ?
De plus être passionné. Je pense que ça, c'est important. Et c'est pour ça que des fois, je me ressource un petit peu, que j'ai arrêté certains projets aussi. Quand je te disais tout à l'heure que j'ai plus de clients, enfin, j'ai des clients, mais très beaucoup moins qu'avant, parce que je sentais que des fois, ma passion partait un petit peu et que je faisais plutôt ce projet-là pour de l'alimentaire. Alors forcément, au départ, on ne fait que les projets pour l'alimentaire. Les gens qui pensent que de suite, tu pars en safari, vivre de ça. Déjà, moi, aujourd'hui, je ne vis absolument pas de la photo animalière, mais pas du tout. Au contraire, je perds de l'argent en faisant ça. Mais il faut savoir passer par ces projets alimentaires. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un moment où j'avais tous ces projets-là et où je commençais à perdre un petit peu ça. Et je me disais, c'est pas très bon. Je ne sais pas pourquoi je fais ce projet-là. Est-ce que c'est la bonne raison pour laquelle je le fais ? Et ça, je pense que c'est ma plus grande peur, de perdre ma passion. Ouais.
Tes citations préférées ?
Alors, j'en ai deux. J'en ai une que j'ai tatouée sur moi il y a très longtemps. C'est juste « Vivre sans regret » parce que je pars du principe qu'il faut faire les choses et surtout pas les regretter ensuite, même si ce n'est pas toujours facile selon les choix qu'on fait. Et il y en a une autre, c'est… Attends, j'ai oublié alors qu'elle est incroyable. « Sois humble et observe ». C'est celle de mon grand-père qui l'a gravée sur un télescope qu'il a créé lui-même. Malheureusement, il est plus là aujourd'hui, mon grand-père. Mais c'est quelque chose. En fait, je pense que ce goût de l'image vient aussi de lui, sans vraiment le savoir au départ. Quand j'étais petit, donc lui vivait à Joigny, une ville vers Paris, quoi, dans la région vers là-bas, vers en Bourgogne. Et en fait, il m'amenait quand j'étais petit regarder les étoiles dans son télescope qu'il a fabriqué lui-même. Et sur ce, j'avais jamais observé ça, j'avais jamais vu ce texte-là gravé devant la porte. Et c'est en voyant des images il y a pas si longtemps que ça que j'ai vu ce texte. Sois humble et observe. Et qui, moi, représente énormément. Et c'est ce que j'essaie de me souvenir quand je vois les animaux, en fait. Sois humble par rapport à eux et observe-les, en fait. Et ça, pour moi, ça représente absolument tout ce que je veux véhiculer aujourd'hui.
Ton ou tes mentors ?
J'ai pas de personne en particulier qui me motive. On va dire que je pense que c'est tous les gens que je rencontre au quotidien. C'est tous les gens que je suis sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je regarde qui me motivent au quotidien. J'ai pas une personne en particulier en me disant tiens, enfin, t'as des mecs par exemple comme Yann Arthus-Bertrand, tu vois, où je me dis waouh, wow, ou David Attenborough, où je me dis waouh, ça pourrait être énorme de vivre leur vie, de faire exactement ce qu'ils ont vécu, parce que ça me fascinerait honnêtement d'être la génération suivante pour faire ce genre de choses. Ça me plairait. Après, bah, je pense que c'est tous les gens qui créent du contenu autour de moi qui me fascinent. Moi, je pars du principe que les gens que je suis sur Instagram, c'est des gens qui me fascinent aussi. Et moi, c'est eux qui me motivent. Après, il y a ben, mon père et ma mère, mais on va dire plutôt mon père qui m'a éduqué d'une certaine façon, qui m'a fait vivre beaucoup de choses. Je me souviens de pas mal de choses au quotidien, d'erreurs qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'il m'a dit « attention à ça, attention à ça ». Et je me dis en fait, ça c'est une éducation incroyable qu'il m'a donnée. Et qui me permet en fait de m'épanouir sur plein de choses et surtout d'éviter de faire plein d'erreurs au quotidien.
Est-ce que tu crois à la chance ?
Pas du tout. Honnêtement, moi je pense que c'est plutôt des opportunités. En fait, quand les gens me disent t'es chanceux, je dis mais non, pas du tout. Je suis pas chanceux. Et même quand tu gagnes au loto, en fait, t'es pas chanceux parce que en fait, t'as pris de l'argent, t'es allé acheter un ticket, tu l'as gratté. Celui qui achète pas le ticket et qui prend pas le risque de gratter son ticket, il gagnera jamais. Donc en fait, tu vas me dire, oui, il y a toujours une part de chance un petit peu dans le jeu, un peu plus. Mais moi, dans ma vie, je ne pense pas qu'il y ait une part de chance. C'est des grosses opportunités. On va me dire, ouais, tu as eu la chance de connaître tous les riders au début. Ben non. Ben, pour ça, je me suis déplacé sur des événements. J'ai économisé, j'ai payé mes billets d'avion. J'ai créé des événements, je les ai invités. J'ai discuté avec eux et ensuite, ils m'ont invité. J'ai fait des projets. Et non, en fait, tu vois, il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc non, moi, je ne crois pas du tout techniquement à la chance. Je pense que c'est des opportunités qu'on va après changer en chance, quoi.
Ton plus grand rêve ?
Mon plus grand rêve, ça serait de faire que du safari, honnêtement. Vraiment, et de faire du documentaire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de développer, de vivre à plein temps du documentaire. Ça serait fantastique, tu vois, d'avoir une chaîne télé ou une plateforme qui veut me faire confiance, où je puisse incarner un peu comme Nicolas Hulot le faisait, tu vois, avec Ushuaïa ou Frédéric Lopez avec Rendez-vous en Terre Inconnue. Ça, c'est des projets vraiment qui me passionnerait de pouvoir incarner un personnage, potentiellement, pourquoi pas, inviter des gens, leur faire vivre un truc, pour que ensuite tous les autres gens qui vont visionner ça puissent s'identifier là-dedans, être sensibilisé. Et c'est vrai que quand tu regardes un rendez-vous inter-inconnu, ben, je pense que les invités qui sont venus, ils sont, enfin, leur vie a changé quoi, après ça.
Oh là là.
Et c'est ce que moi je vis quand je fais un safari. Ma vie change à chaque fois, de plus en plus. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de partir en safari, et ben, en voyant ce genre de choses, ils disent « Ah ouais, il y a ça qui est quand même fantastique, il faut le préserver. Ok, je vais essayer de faire ça comme effort, même si je ne peux pas tout faire, je vais faire un petit peu. » Et c'est là où c'est fantastique. Si quelqu'un fait un petit effort, ben, tu as réussi. Quoi.
Je rêve d'avoir Frédéric Lopez sur le podcast. Je suis en cours. Et ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie ?
Maximiser le potentiel de sa vie, c'est compliqué comme question quand même. Hein. C'est,
ce qui te vient.
Ben, moi aujourd'hui, en fait, je pense que j'essaie de maximiser le potentiel déjà, c'est-à-dire que mon savoir-faire, c'est ce qui va permettre de pouvoir, comme je disais plein de fois, sensibiliser les gens, et j'ai envie de le mettre à profit des autres. Voilà, et de toujours continuer à m'améliorer. Je ne suis pas le meilleur photographe ni le meilleur vidéaste du monde, loin de là. Et au contraire, je pense que plus je vais faire des projets, plus je vais m'améliorer et plus je vais pouvoir sensibiliser les gens. Je vais apprendre à parler, à partager aussi. Quand je vois à peu près il y a 3 ans la façon dont je parlais, bah, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. Peut-être que dans 3 ans, je parlerai encore mieux. J'arriverai encore mieux à partager mes projets, mes envies. Et si je pourrais avoir un jour un impact encore plus positif, ça serait génial quoi. Donc je pense que pour maximiser sa vie, il faut avoir un impact. Vivre une vie sans avoir un impact positif, ça a pas trop de sens pour moi. On n'est pas juste là pour vivre, on est tous là pour aider un petit peu, pour que les choses s'améliorent. On a tous des contraintes au quotidien. Pas tout le monde peut être vegan, pas tout le monde ne peut pas prendre l'avion, pas tout le monde peut juste marcher, ne pas avoir de véhicule, tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas possible. On a tous des contraintes qui sont différentes, faut les accepter, mais chacun peut faire un petit effort. Et peut-être utiliser son savoir-faire ou un petit peu de temps aussi pour aider les autres. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire en faisant des projets documentaires, en aidant un maximum les associations et même sur les réseaux sociaux, en partageant. Ça prend pas de temps de partager un post de la SPA, j'en sais rien, tu vois. C'est cool, au lieu de partager l'autre rigolo à Dubaï, j'en sais rien, et ben, tu partages un post de la SPA, et ben, c'est beaucoup mieux. Derrière, ça a beaucoup plus d'impact que dire « Oh, regarde, ce mec, il est super bien habillé » ou « J'en sais rien ». On s'en fout en fait. Tu vois, tu peux le faire de temps en temps, mais il faut toujours essayer d'avoir un petit impact. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien.
Merci beaucoup, JC.
Merci à toi, c'est gentil.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.